France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la journée des enfants sur France Inter. Dans les carnets, je vous présente une association qui emmène des enfants à la montagne. Des enfants qui vivent à Albertville. Ils voient donc les sommets tous les jours, mais n'y vont pas pour des raisons culturelles ou financières. Alpinisme et mixité sociale au programme aujourd'hui. Avant cela, on fait un crochet par la matériothèque de Chambéry. La Savoie est à l'honneur toute cette semaine. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bricoleur, bricoleuse, il est temps d'arrêter d'acheter du neuf. Ou en tout cas, de vérifier d'abord qu'il n'y ait pas de réemploi possible. Pour le bois, la peinture, le papier peint, la quincaillerie, que sais-je, pensez aux matériothèques. Il y en a de plus en plus un peu partout en France. Ce sont des endroits où l'on récupère les déchets du bâtiment pour les revendre à petit prix. Bonjour Astrid Magnien.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de la filière réemploi au sein de la matériothèque de Chambéry, qui est baptisée Enfin. Pourquoi ce nom, Enfin ?
Eh bien écoutez, cette association, ça a été la concrétisation d'une expérimentation qui a duré de 2020 à 2022. Et au moment du coup de la rédaction des statuts, nous avons tous crié « Enfin !» car c'était vraiment un soulagement à la fois pour les usagers et pour les créateurs de cette matériothèque.
Le secteur du bâtiment génère une quantité de déchets assez impressionnante, Astrid. Quel est le chiffre qui vous frappe le plus en la matière ?
Mais écoutez, tous les ans, il y a 42 millions de tonnes de déchets générés par le bâtiment. C'est un des secteurs les plus polluants en France. On n'arrive absolument pas à s'imaginer ce que ça représente. C'est inimaginable.
Alors, votre association qui tente de lutter contre ce gaspillage, c'est un chantier d'insertion. Vous faites travailler des personnes éloignées de l'emploi. D'où viennent les matériaux que l'on trouve chez Enfin ?
Mais écoutez, ils arrivent de plusieurs provenances différentes. Déjà, nous avons les chantiers de déconstruction et les chantiers de construction qui génèrent encore beaucoup du coup de matériaux. Nous avons aussi les surplus d'invendus, les surplus de stock, les erreurs de cote des industriels. Et nous avons aussi des dons de particuliers. Et tous ces dons sont soumis à un cahier des charges pour déterminer ce qui est intéressant de récupérer. Et en fait, notre intérêt est surtout lié à une quantité, à un volume. Par exemple, les parquets flottants sont intéressants pour nous à partir de 7 mètres carrés, puisqu'avec 7 mètres carrés, on peut faire une pièce entière. Mmh. On récupère aussi du carrelage de la faïence avec de la faïence pour 4 mètres carrés, du carrelage pour 1 mètre carré. Et il y a aussi un sujet lié au bois. On a beaucoup de bois dans notre matériothèque de Chambéry. Au-dessous d'un mètre linéaire, on va dire qu'un morceau de bois, une poutre, une lambourde, etc., c'est pas très intéressant. On ne peut pas en faire grand-chose.
Votre association est reconnue d'intérêt général. Donc, les professionnels qui vous donnent leurs déchets bénéficient d'un crédit d'impôt. Est-ce que vous constatez des réticences du secteur à penser au réemploi ?
Alors, nous sommes dans une région très dynamique. Le bâtiment subit une crise comme partout en France, mais c'est vrai qu'on a quand même encore beaucoup de chantiers. L'intérêt des professionnels est principalement lié à l'intérêt des maîtrises d'ouvrage, à savoir les clients, que ce soit les collectivités pour les marchés publics, que ce soit du coup des promoteurs privés, que ce soit des particuliers qui vont avoir le souhait de faire du réemploi dans leur programme. Et c'est ça qui déclenche, en fait, un ruissellement des besoins et un artisan sera amené à faire du réemploi parce que son client va lui demander de le faire. On a évidemment des artisans très intéressés, très motivés pour faire du réemploi, c'est dans leur charte propre, mais il faut vraiment que ce soit une volonté du client.
Et pourtant, c'est moins cher, a priori.
Alors oui, tout à fait. Les matériaux sont vendus moins 70% du prix du neuf chez Enfin Réemploi, on parle de prix solidaire. Il y a un enjeu effectivement pour les professionnels de s'approvisionner avec des produits de réemploi moins chers et de faire revaloriser leur temps de travail. Mais il y a aussi une volonté d'accéder à notre autre clientèle, qui est notre clientèle de particuliers, pour qu'eux puissent du coup avoir des matériaux à des prix défiant toute concurrence. Je vous donne un exemple, un lavabo chez Enfin Réemploi, c'est entre 10 et 20 euros maximum.
Alors qu'en neuf, on est plutôt au-dessus des 200 euros, non ?
100-200 euros, oui, selon les modèles.
Le réemploi impose de changer de pratique. Il faut envisager un chantier en fonction des matériaux disponibles et non pas chercher les matériaux nécessaires au projet qu'on avait en tête. Finalement, c'est une révolution.
Oui, alors c'est du bon sens surtout. Hein. On essaye de faire avec ce qui est déjà là. On parle de ressources, évidemment, de ressources planétaires. Dans le bâtiment, on est très impacté du coup par ces limites planétaires, puisque le sable dans les océans, les métaux du coup dans la roche, et ben à un moment donné, il y a une fin à tout ça. Faire avec le déjà là, avoir le bon sens de prendre soin aussi des matériaux qu'on va déposer sur un chantier pour pouvoir les conditionner, les stocker et les remettre en œuvre sur un autre chantier. Tout ça, c'est effectivement un changement de pratique qui est en train de s'opérer. Hein. On voit les mentalités changer, mais ça prend beaucoup de temps, donc on les accompagne au mieux.
Je signale que vous organisez une braderie les 14 et 15 novembre avec des prix encore plus bas, donc.
Et oui, c'est notre braderie annuelle, moins 30% sur déjà les prix extrêmement bas. Hein, donc on va être à les pâquerettes, comme on dit. Et puis nous ferons certainement une capsule sur un arrivage. On n'a pas encore déterminé laquelle, mais en tout cas, ce sera pour nos clients fidèles qui viennent nous voir régulièrement, pour les nouveaux arrivants, de leur proposer aussi des produits au meilleur coût.
Y a-t-il parfois des matériaux saugrenus dans votre matériothèque ?
Oui, alors on a réussi à vendre des bidets. Alors je sais pas pour vous, mais en Savoie, c'est un peu inédit. On est proche de l'Italie, donc on a encore des clients qui sont intéressés par les bidets à usage, donc à destination de rester un bidet, parce qu'on peut très bien détourner un bidet, mais non. Oui, effectivement, ça nous est arrivé et on était plutôt surpris.
On peut détourner un bidet, dites-vous ?
Oui, ben un mangeoir pour des chèvres.
Ah oui.
Oui, c'est on a beaucoup de clients agriculteurs qui ont toujours su faire du réemploi et qui savent tout à fait détourner une baignoire et un bidet sans problème.
Enfin, réemploi, c'est donc à Chambéry. Merci beaucoup Astrid Manien.
Merci Dorothée, très bonne journée.
Bonne journée à vous, au revoir.
Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
On a beau vivre au cœur des Alpes, on peut très bien ne jamais se promener dans les sommets. À Albertville, une association se démène pour proposer des activités de montagne aux jeunes et aux familles qui n'y ont pas accès pour des raisons financières ou culturelles. Cet asso porte un très joli nom, les Enfermés dehors. Bonjour Olivier Cartier-Moulin.
Bonjour Dorothée.
Co-fondateur bénévole des Enfermés dehors. Alors vous êtes guide de montagne de métier et vous proposez avec cette association de l'escalade, du ski de randonnée, des sorties VTT, des balades avec un âne et j'en passe beaucoup, avec une préoccupation majeure, la mixité sociale. La montagne manque-t-elle de mixité, Olivier ?
Oui, alors effectivement, notre postulat de départ, c'est effectivement que la montagne peut parfois manquer de mixité. Et c'est ce pourquoi on a cofondé cette association avec un ami qui, lui, est guide de haute montagne, Manu Pellissier. Moi-même, je suis accompagnateur en montagne, donc on a un peu une stratification en termes d'altitude et de métier. Lui est dans la haute montagne et moi dans la moyenne montagne.
Ah, voilà. Les accompagnateurs, c'est un peu plus bas que les guides, c'est ça ?
Ouais, voilà, il y en a même qui s'amusent à dire que nous ne serions que de demi-guides.
Alors, vous organisez des activités le mercredi et des stages de plusieurs jours. Comment vous tournez-vous vers ceux à qui la montagne peut sembler inaccessible ?
Eh ben, l'idée, c'est effectivement de la rendre accessible. En fait, la plupart la voient tous les jours, mais elle leur semble inaccessible. Déjà, il faut savoir comment y aller, avoir un peu les codes, avoir les éléments aussi de sécurité et puis avoir envie d'y aller. Et pour avoir envie d'y aller, il faut savoir quoi y trouver. Donc nous, c'est ce qu'on propose de faire découvrir aux jeunes, en fait, c'est de leur montrer tout ce qu'on peut y trouver et en espérant faire naître une forme de passion chez ces jeunes par la diversité des activités qu'on va pouvoir leur proposer.
Il faut aller les chercher, parfois.
Il faut aller les chercher, effectivement. Donc... On s'appuie sur des associations qui elles-mêmes sont déjà présentes à la fois dans les quartiers politiques de la ville ou qui s'occupent de jeunes qui ont ce profil de pas avoir la chance d'être emmenés dans la montagne, soit par des associations, soit par leurs parents. Donc il y a les écoles aussi hein, de la ville qui nous aident avec des instituts qui sont nos relais. On a aussi des maisons d'enfants à caractère social qui sont dans notre réseau et puis d'autres associations comme l'association Ma Chance Moi Aussi qui nous identifie des enfants qui seraient intéressés pour découvrir la montagne et qu'on emmène avec grand plaisir avec d'autres enfants qui, eux, n'ont pas ces problématiques pour créer cette mixité, justement.
Voilà, il y a du mélange, hein. Pas uniquement des enfants qui seraient éloignés de ces activités, mais un peu de tout, finalement.
Exactement, c'est vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte que ce vivre ensemble, il s'exprime aussi à travers les expériences montagne qu'on va leur proposer. on sait que les enfants voilà, vont se retrouver sur une forme de pied d'égalité, à découvrir des activités, à se découvrir aussi à travers notamment nos stages, à passer une nuitée en montagne, voilà, dans des activités un peu originales, hein, passer une nuit sous un igloo, passer une nuit sous un tipi ou même sur un portal edge sur une falaise. Ils se retrouvent sur un pied d'égalité, ils partagent vraiment les mêmes sensations et du coup, ça crée aussi des liens très particuliers à travers ces expériences montagnes.
Qu'est-ce qu'un portal edge, Olivier ?
Un portal edge, alors un portal edge, c'est de la literie d'alpinisme.
Je suis terrifiée.
C'est voilà, on va dire que c'est une toile avec une armature pliante qui permet aux alpinistes de gravir des parois en plusieurs jours et du coup ça leur permet de passer la nuit dans un sac de couchage pendu à la paroi.
On dort suspendu dans le vide.
On peut dormir suspendu dans le vide.
Mais pourquoi?
c'est une découverte aussi qu'on propose aux enfants. C'est vrai que souvent ça terrifie plus les parents que les enfants.
Ah, voilà.
Les enfants, ils se disent succès, ça a l'air très chouette.
J'imagine qu'on s'en souvient longtemps d'une nuit passée dans le vide.
Exactement. C'est exactement ça. Ça crée de super souvenirs.
Qu'est-ce que ça donne côté tarif ? Vos prix sont-ils adaptés aux ressources des familles ?
Bien sûr, alors c'est la base hein, de cet équilibre qu'on cherche à créer. Donc effectivement, il y a une tarification en fonction des ressources et qui peut même être une invitation hein, pour les enfants qui n'auraient pas ou très peu de ressources à consacrer à ça. Et on peut se permettre du coup d'avoir ces tarifs très bas grâce surtout à des financements qui passent par du mécénat. Donc des entreprises, des fondations locales qui nous aident justement à emmener ces jeunes en montagne, leur permettre de découvrir ces activités d'alpinisme.
L'association fonctionne aussi grâce à des bénévoles. Est-ce que vous avez besoin de renforts ?
Alors effectivement, les bénévoles sont très précieux aussi pour notre association, puisque dans les sorties qu'on propose, il y a toujours un diplôme d'état de l'activité qu'on va proposer. Et souvent, un bénévole qui co-encadre avec nous les sorties. On en a besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Qu'est-ce qui vous rend fier, Olivier ?
Aujourd'hui, ce qui nous rend fier, c'est de croiser ces jeunes dans la rue, n'importe où, en dehors des activités qu'on a pu leur proposer en montagne, et de les voir en fait sourire avant de nous saluer et de nous rappeler en fait les meilleurs souvenirs qu'ils ont eus avec nous. Y compris plusieurs années après. Ça, c'est quand même très chouette de voir qu'on a pu lui laisser un souvenir et aussi une envie d'y retourner. Quand certains nous disent qu'ils ont emmené leurs parents sur les sommets qu'on voit autour d'Albertville, ça fait quand même chaud au cœur, ça met les poils, comme on dit.
Ils emmènent leurs parents.
Alors ça, c'est ce qui, effectivement, peut nous rendre le plus fier de l'action. Effectivement, pour certains, ils se sentent ensuite d'emmener leurs parents. Et quand on a de ce genre de témoignages, c'est vrai que c'est chouette. Tous le font pas, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, pour ceux qui le font, ça vaut le coup d'avoir passé du temps à transmettre cette passion.
On disait tout à l'heure qu'on peut très bien vivre au pied des montagnes et ne jamais y grimper. Finalement, votre association, elle propose à ses enfants une nouvelle façon d'habiter leur territoire.
Eh ben oui, c'est une nouvelle façon d'habiter leur territoire, au sens où ces montagnes qui ne sont accessibles que par l'œil, le deviennent aussi par les activités qu'on va aller y pratiquer. Et moi, je le vois personnellement à travers mon parcours, le fait d'avoir un paysage sur lequel on est déjà allé, sur lequel on a déjà vécu des choses, eh ben c'est ce qui nous fait nous sentir bien en fait là où on habite, quoi. Et donc on essaye aussi de faire en sorte de créer ça chez eux et de faire en sorte que ce paysage ne soit pas qu'un décor, mais aussi un lieu que les enfants ont la sensation d'habiter, dans lequel ils ont rencontré des gens, ils ont vécu des choses. Le simple fait de se remémorer ces moments-là à la vision du sommet, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, quoi.
Les enfermer dehors, c'est à Albertville. Merci beaucoup, Olivier Cartier-Moulin.
Merci beaucoup, Dorothée.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous.